Nous croyons que dans toutes les recherches que nous avons pu faire, consciemment ou inconsciemment, c'est toi qui as été la solution. C'est toi qui as été la réponse. C'est toi qui t'es trouvé là présent pour nous en ce moment-là. C'est toi qui nous a tendu la main. C'est toi qui nous a orienté à nouveau. C'est toi qui a tout changé. C'est toi qui a tout changé. Alors nul n'est comme toi. Tu es le Dieu vrai. Tu existes. Et la manifestation de ta présence, nous sommes la preuve de cette manifestation. Nos vies sont la preuve que tu es vivant. Alors, encore une fois de plus, nul n'est comme toi. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié. Sois élevé. Merci pour la grâce de cette semaine écoulée. Merci pour nos familles, notre Dieu. Merci pour nos enfants. Merci pour nos activités professionnelles, familiales et sociales. Merci pour le pays de la France, là où nous vivons. Merci pour le monde entier. Malgré les peines, les catastrophes, malgré les guerres, tu gardes ton monde. Tu continues de donner la paix. Tu continues d'accorder du bien aux gens. Tu continues de donner de l'amour. Tu continues de montrer que ça vaut la peine d'avoir cet espoir en toi. Et cette espérance, elle est une espérance vivante. Alléluia. À notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Une fois de plus, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Dieu et qui nous donne de nous retrouver dimanche après dimanche, que nous puissions lui être reconnaissant pour cette grâce-là, frères et sœurs. Jusqu'à nos derniers souffles, jusqu'au retour du Seigneur, c'est vrai que notre vie humaine sera parsemée de moments difficiles. Mais regardons tous les bons moments, toutes les bénédictions, toutes les grâces dont nous sommes l'objet. N'est-ce pas? N'est-ce pas que le chant dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et si tu les comptes, tu verras qu'ils sont plus nombreux. Qu'ils sont plus nombreux. Que les épreuves, que les difficultés. Ce matin, j'aimerais que nous puissions continuer notre méditation de la parole de Dieu dans cette épître de l'apôtre Jean que nous avons commencé depuis bientôt deux dimanches, le troisième dimanche aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avions vu ce chrétien ordinaire, Gaïus. Nous avons vu la qualité de sa vie. Comment l'apôtre Jean le félicitait parce qu'il était un chrétien simple, mais un chrétien qui était caractérisé par la mise en pratique de la parole de Dieu. Il était un chrétien qui vivait dans la vérité. Cette vérité, c'est la parole. Il vivait de la parole, il vivait dans la parole. Et l'accent a été mis sur la pratique de l'amour fraternel dans la vie de ce Gaïus. Et tout le propos de l'épître de Jean, il y a bien des thèmes, mais en grande partie, ce que Jean a reçu de Dieu de communiquer, c'est quelles sont les caractéristiques du vrai chrétien. Quand Jean écrit, il y avait du trouble, il y avait des faux prophètes, il y avait de faux enseignements. Et les chrétiens étaient un peu troublés, ne sachant plus trop qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Et Jean écrit, c'est pour ça que dans l'épître de Jean, on a parfois cette répétition, il dit « Celui qui ne croit pas si, ou celui qui fait hors de la parole de Dieu est un menteur. » On a régulièrement le mot, l'expression « est un menteur » parce que l'apôtre Jean voulait confronter les faux enseignants, les faux chrétiens aux vrais chrétiens. Et dans le texte d'aujourd'hui, « conduit sa vie selon le code de la parole de Dieu hein ». Et vous verrez tout à l'heure pourquoi j'ai utilisé le mot code. Hein, pour ceux qui ont passé le code de la route, n'est-ce pas? On en dira quelques mots tout à l'heure. Il s'agit ce matin de continuer notre rentrée dans cette nouvelle année en nous donnant en nous redonnant la bonne orientation pour notre vie chrétienne, pour que cette vie chrétienne individuelle soit à la gloire de Dieu et pour que notre vie d'église continue d'être à la gloire de Dieu. Nous allons lire la première épître de Jean, donc en Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 14. Et c'est la version qui s'appelle version du semeur. C'est une version dans le fond qui est même que celle que vous avez en 8 secondes, mais qui traduit les choses dans un français plus contemporain. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit, je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfant. Vous connaissez le Père. Et je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Amen. Voilà la parole de Dieu énoncée dans la bouche de l'apôtre Jean. Jean nous donne les caractéristiques d'un vrai chrétien, n'est-ce pas? Et la première chose qu'il nous dit, la diapo s'il te plaît, c'est la preuve de l'amour de Christ en nous. Quelle est cette preuve? C'est la fidélité à mettre en pratique la parole de Dieu. Il dit, voici comment, au verset 3, voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit, je le connais, et n'obéit pas à ses commandements, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean est clair. Il dit, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole, celui qui pratique sa parole, celui qui met en pratique sa parole, montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ a vécu. On dit, oulala, est-ce que nous on peut vivre comme Christ a vécu? C'est fort ça, Seigneur. Mais en même temps, il faut toujours se rappeler que le nom chrétien que nous portons signifie petit Christ. Étymologiquement, le mot chrétien veut dire des petits Christ. Donc, si nous avons eu cette identification avec cette appellation chrétien, c'est parce que Dieu sait que c'est possible que nous puissions vivre comme le Christ a vécu. Nous sommes de petits Christ. Dans l'histoire de l'Église, ce nom est apparu justement parce que les observateurs des premiers chrétiens, c'est eux qui ont donné ce nom aux chrétiens. C'est pas les chrétiens qui sont appelés chrétiens. C'est ceux qui voyaient la vie de ces gens changer, transformer, marchant selon la parole de Jésus-Christ, qui ont dit, tiens, ceux-là, ils marchent comme ce Christ que nous avons connu. C'est des petits Christ. Et c'est comme ça que le nom chrétien est devenu la désignation de cette foi nouvelle en Jésus-Christ. Notre obéissance est le signe par excellence. C'est le signe vrai qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous prétendons, si nous disons que nous avons rencontré Dieu, non, si nous disons que Dieu nous a rencontrés et que Christ nous a montré le chemin, alors nos vies doivent marcher à sa suite. Mais c'est ce que nous faisons déjà, frères et sœurs. Nous le faisons déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est ce que Jean dit aux chrétiens. Il dit, mais vous le faites déjà, donc ne vous laissez pas troubler. Vous marchez déjà selon le Christ. Donc ne vous laissez pas troubler par ceux qui vont vous ajouter des choses autres. Vous êtes dans la bonne direction déjà. C'est rassurant, n'est-ce pas? Parce que parfois on peut avoir un message, genre, ouais, pour être un vrai chrétien, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, la vie chrétienne n'a pas d'abord un ensemble d'interdits ou d'obligations. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est cette première rencontre. C'est ce don que Dieu nous fait d'une nouvelle vie, d'un changement d'intelligence, d'un changement d'orientation. Ensuite, Dieu est conscient que les changements vont prendre du temps. Et il est un père, donc il est un parent. En tant que parent, nous savons, qu'est-ce que je peux demander à un enfant de 6 ans? Est-ce que je peux demander à un enfant de 6 ans de vivre et de réagir comme un enfant de 14 ans? C'est pas censé. Je l'éduque avec l'âge qu'il a. Et je me tiens vis-à-vis de lui selon son âge. La preuve, quand un adulte fait des choses, on dit, mais pourquoi tu te comportes comme un enfant? N'est-ce pas? Et Dieu est le modèle du Père, donc il ne peut pas nous demander quelque chose qu'il sait qu'on ne va pas obtenir en un seul jour. Donc, si quelqu'un demeure en Christ, il doit marcher comme le Christ lui-même a marché. C'est une progression. C'est un projet de vie. Ce que Dieu veut voir quelquefois, c'est est-ce que nous sommes dans la bonne orientation? C'est ça qu'il veut voir. N'est-ce pas? Le véritable amour pour Dieu s'exprime pas simplement dans le langage sentimental. C'est bien, on peut exprimer notre amour pour Dieu dans nos louanges, dans nos prières, dans nos témoignages vis-à-vis des autres. Mais la plus conséquente de manifestation de notre amour, c'est de le laisser transformer notre vie. De laisser notre vie être impactée par sa parole, frères et sœurs. Cette obéissance à des ramifications dans tous les domaines de nos vies, n'est-ce pas? Dans nos comportements, dans nos pensées, dans l'orientation de nos émotions, de nos sentiments, de nos désirs, de ce que nous aimons ou de ce que nous n'aimons pas. Et ça va, année après année, ça va en profondeur, n'est-ce pas? Et ça nous change, année après année. C'est pour cela qu'il peut continuer à dire « marcher dans la lumière ». La diapo d'après. Marcher dans la lumière. C'est se laisser guider, éclairer par les conseils de la parole de Dieu. Mais avant d'analyser ce texte, une image. Tu peux cliquer une fois. À quoi sert le cours de la route qu'on apprend à l'auto-école? À quoi ça nous sert? Ça nous sert à bien circuler dans la ville, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a, je ne sais pas, moi, au premier siècle, ils n'avaient pas ce problème-là. Parce qu'ils n'avaient pas de véhicule à moteur. Ils avaient d'autres formes aussi de circulation. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, des hommes, des humains du 21e siècle. Et nous sommes confrontés à cette réalité des véhicules que nous utilisons presque quasi quotidiennement. Et s'il n'y avait pas le code de la route, ça serait un beau bazar, n'est-ce pas? Un beau bazar. Tu peux cliquer une fois de plus. Imaginons un instant que le code de la route n'existait pas. Selon vous, que se passerait-il? Déjà, quand le feu ne marche pas, à des carrefours, bonjour les embouteillages. Il suffit qu'un panneau stop qui doit être au bon endroit ne soit pas là, bonjour les accidents. Il suffit qu'un conducteur oublie la priorité à droite, bonjour les dégâts. C'est un vrai bazar. Et quelquefois, dans certains pays où toutes ces signalisations ne sont pas encore bien installées ou ont été installées, mais ont été démontées, volées, parce que parfois, c'est des matériaux qui rentrent dans d'autres fabrications, on voit tous les désagréments qu'on peut avoir. Même au-delà des désagréments, on voit que certains carrefours sont accidentogènes. Dans l'un des pays que je connais en Afrique, il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour de la mort. Et pourtant, il y a des feux de signalisation. Le problème, c'est qu'à ce carrefour, les feux sont régulièrement en panne et c'est un carrefour où les gens roulent à vive allure. Et il y a presque hebdomadairement, il y a toujours un accident mortel ou un accident grave. Malgré le feu tricolore. Ça a été appelé le carrefour de la mort. Il me semble donc, la diapo d'après, tu peux appuyer juste une fois. Il me semble que spirituellement, c'est pareil. Sans la lumière, sans la direction, sans les feux de signalisation, sans les panneaux de signalisation que nous procure la parole de Dieu, c'est aussi le bazar spirituel. Comment nous orienter dans notre nouvelle vie chrétienne si nous n'avons pas de direction, si nous n'avons pas de panneaux, si nous n'avons pas d'indication? Comment faire? C'est pour ça que le texte dit celui qui marche dans la lumière. Car la lumière apparaît et les ténèbres se dissipent. Parce que une fois qu'il nous a ramenés à cette vie spirituelle, il nous donne aussi le code pour avancer dans cette vie. Pour nous orienter, pour nous guider, pour nous conduire. C'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Notre rapport en tant que chrétien à la parole de Dieu doit être un rapport sérieux. Un rapport, vraiment, c'est une question, j'ai envie de dire, c'est une question de vie ou de mort. Et quand les moniteurs nous instruisent à l'hôtel école, le fond de la question, c'est que c'est une question de vie ou de mort. Quand un usager ne respecte pas le code de la route, il se met en danger et il met les autres usagers en danger. Donc c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de dégâts corporels, de dégâts matériels. Quand on sait que nous investissons dans ces voitures, malgré les assurances, je ne pense pas que chaque jour, chacun de nous a envie d'avoir un accident. Ce n'est pas le but de la, c'est pas le but du jeu, comme dit mon fils. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que j'arrive à utiliser cet outil pour mes besoins quotidiens, pour ceux de ma famille, et que ça m'apporte un bien-être dans mes déplacements, dans mes activités. Mais la parole de Dieu est plus que cela. Elle est plus que cela, n'est-ce pas? Ce bazar, tu cliques une fois s'il te plaît, ce bazar spirituel engendre deux types d'inconvénients si on ne respecte pas le code de la parole de Dieu. C'est l'immobilisation. Si on ne peut pas se diriger, si on ne peut pas s'éclairer, on est immobile. C'est la non-marche. C'est l'absence de marche spirituelle. Donc, on n'avance pas spirituellement. Et c'est évident que l'absence d'une marche est déjà une désobéissance. Puisque la Bible dit quoi? Marcher selon l'Esprit de Dieu. Progresser. Donc, si on ne progresse pas, si on ne marche pas, on a déjà un pas dans la désobéissance. Parce que Dieu nous dit de marcher, d'avancer. Donc, si on est immobile, c'est une forme de désobéissance. Nous sommes invités
Et Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son esprit. C'est ça qui est merveilleux. C'est la grâce de Dieu. Il ne nous laisse pas seuls à nos seules forces. Il nous donne aussi les forces de son Esprit Saint pour nous aider à marcher. C'est pour ça que dans l'Épître aux Galates, il dit, laissez-vous conduire par l'Esprit et vous n'accomplirez pas. Donc c'est une expression, il y a une passivité. Laissez-vous, comme s'il y a un vent, laisse-toi emporter par le vent. Par le vent de l'Esprit. Certes, une action à faire, c'est de te laisser. Et l'Esprit de Dieu va t'accompagner, va te porter, va te guider, va t'orienter, va te montrer. En s'appuyant sur la parole de Dieu. En s'appuyant sur la parole de Dieu. La Bible. Le deuxième risque, c'est les accidents. Le risque d'accident, voire d'accident mortel. C'est inévitable si on ne respecte pas le code de la parole de Dieu. C'est parce qu'on marche alors dans les ténèbres, s'il n'y a pas de lumière sur notre chemin. Si en pleine nuit noire, je n'ai ni phare, je n'ai pas de lumière, je n'ai aucune signalisation, bah c'est vrai que le risque d'accident, il est là. Je suis sans repère, sans de bonnes indications. Alors, on se perd spirituellement. Ah, même le GPS nous perd quelquefois. La question c'est, est-ce que c'est lui qui nous perd ou c'est nous qui nous perdons nous-mêmes? Je crois que c'est les deux quelquefois. Quelquefois, il nous perd parce qu'il nous emmène dans des rues. On ne connaît pas, donc on le suit à l'aveuglette. Et du coup, on a l'impression qu'on est perdu. Mais en fait, lui, il sait où il nous conduit. Mais nous, on ne sait pas. Et on a l'impression qu'il nous fait tourner. Mais c'est vrai que parfois, il perd la tête. Mais quelquefois aussi, c'est nous-mêmes. Parce que quelquefois, nous sommes sûrs d'avoir mis la bonne adresse. Mais en fait, quelquefois, on n'a pas fait attention. Il y a un petit détail qu'on a oublié. On n'a pas mis la bonne adresse. Mais comme on était convaincu d'avoir mis la bonne adresse, donc on crie sur ce bonhomme ou cette femme qui nous parle. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et on s'en rend compte bien après, lorsqu'on a vérifié. On dit, oh mince, c'est vrai. C'était pas boulevard, c'était avenue. Mais tu as mis boulevard. Donc lui, il cherche le boulevard. Alors que c'était une avenue. Donc ça change beaucoup de choses. Et avec Dieu, c'est pareil. Si on ne connaît pas précisément les choses, on peut se tromper. On peut croire que c'est Dieu qui nous trompe, mais en fait, c'est nous-mêmes. Parce qu'on ne connaît pas précisément cette parole. Parce qu'on n'a pas bien pris conseil exactement de cette parole de Dieu. On a cru qu'on avait compris. Et on n'a pas pris le temps de bien sonder la parole. Frères et sœurs, c'est pour ça que le texte nous dit, nous devons marcher dans la lumière. Marcher par la parole de Dieu. Ce n'est pas une option. La diapo d'après. Marcher dans la lumière, marcher selon la parole de Dieu, ce n'est pas une option. Ce n'est pas je choisis de ne pas marcher, je choisis de marcher. Non. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité vitale. Pour notre vie chrétienne, pour la vie spirituelle, mais nous ne sommes pas que des êtres spirituels. Notre être est tout entier. Donc, pour notre vie tout entière, il est vital que nous laissions la parole de Dieu nous guider. C'est une question, comme je l'ai dit tantôt, de vie et de mort. Gloire à Dieu, nous sommes dans la vie parce que Christ nous a donné la vie. Donc, nous sommes du bon côté. En tout cas, si nous avons fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ, nous sommes du côté de la vie. Il s'agit maintenant de faire en sorte que cette vie soit en abondance. Il dit, je vous donne ma vie et je la donne en abondance. Alors, qu'est-ce qui donne le sens à ta vie? Qu'est-ce qui donne le sens à ta vie? Qu'est-ce qui donne la direction? Qui est-ce qui donne du sens à ta vie? Donc, c'est deux questions différentes. Quels sont les buts qui te conduisent? Quels sont les objectifs qui te font bouger, qui te font lever, te lever le matin? C'est ça, qu'est-ce qui? Et qui donne du sens à ta vie? Quelle est la personne qui motive ta vie? Est-ce le Seigneur? Est-ce Jésus-Christ? Ou est-ce quelqu'un d'autre? Mais pour nous les chrétiens, la réponse elle est toute faite, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut juste qu'on se rassure que c'est toujours Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on se rassure. Est-ce que c'est vraiment toujours lui? Amen. ou bien quelquefois, j'ai dit, Jésus, tu es gentil, mais aujourd'hui, c'est moi. Ou bien quelquefois, on dit, Seigneur Jésus, tu es gentil, mais aujourd'hui, je vais écouter quand même le voisin. Ben, si la pensée du voisin est une pensée qui est conforme à celle de Dieu, il n'y a pas de problème. Si ma pensée est conforme à celle de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Toujours se rassurer qu'elle est conforme à celle du Maître, à celle de celui qui est l'inventeur du code de la vie, n'est-ce pas? Sinon, on a ce panneau de signalisation. Danger, débouché sur un quai ou une berge. Je ne sais pas si tu vois ce panneau, est-ce que tu continues d'avancer? C'est un panneau de danger, hein? C'est un panneau de danger. Donc, si tu continues d'avancer sur une chaussée qui a ce panneau-là, ou une rue qui a ce panneau-là, bah, le dessin même dit tout. C'est-à-dire que si quelqu'un ne sait pas lire ce panneau, au moins le dessin, il peut le décrypter. Une voiture qui tombe dans l'eau, c'est un danger. Nous avons le Seigneur qui nous avertit. Les chrétiens ont pris possession d'un grand héritage avec le pardon de leurs péchés, la communion avec Dieu et la victoire sur le malin. Mais la tentation est là, n'est-ce pas? Quand on a lu au début, il dit, dans le premier verset de ce chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Parce qu'il a dit plus tôt que tout chrétien vrai ne pêche plus. Il veut dire simplement qu'un chrétien qui est né de nouveau en Jésus-Christ ne prend plus l'habitude de vivre dans le péché. Il n'a plus l'habitude de vivre dans le péché. Par contre, les tentations, les pressions, les pièges de la vie seront toujours là. Il y a toujours cette lutte. Et le Seigneur, il est toujours là avec des panneaux comme ceux-ci sur notre chemin. Il nous montre des panneaux de danger. Il dit attention, danger. Attention, danger. Donc, il nous avertit. Et les panneaux de danger sont mis bien avant le danger pour que l'usager puisse avoir le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. N'est-ce pas? Donc, le Seigneur nous avertit bien longtemps pour que nous ayons le temps de prendre la bonne décision, de faire le bon choix, de bien nous orienter. L'année ne vient, l'année ne fait que commencer. Nous sommes qu'au deuxième dimanche de l'année. C'est encore le temps de regarder tous les panneaux de danger que Dieu a mis devant toi et de réfléchir au nouvel itinéraire que tu dois emprunter. La diapo d'après, s'il te plaît. Et toute cette question de lumière, de fuir les ténèbres, du péché qui peut être toujours là comme un danger devant nous, on a cette invitation que le chrétien doit vivre comme Jésus-Christ. Et le verset 9 et 10 nous dit, en tout cas dans ce passage, qu'est-ce qu'il appelle que le chrétien doit vivre comme Jésus-Christ. Il le dit clairement au verset 8, après avoir parlé du fait que nous sommes dans la lumière, donc conduit par la parole de Dieu, au verset 9, « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. » Parce que Christ a marché avec l'amour des hommes, même l'amour de ses ennemis. Verset 6 dit quoi? « Si vous dites que vous demeurez en Christ, vous devez aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Et l'un des commandements dont l'apôtre Jean dit, il n'est pas un commandement nouveau, mais en même temps, c'est un commandement nouveau, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il est interdit, je ne sais pas si on dit d'haïr ou de haïr, mais en tout cas, d'haïr son frère et sa sœur. De haïr, Voilà. Donc, Google, tu t'es trompé. C'est de AI, c'est pas d'AI avec V. Le propos ici, quelquefois on dit oui, mais la vie chrétienne, c'est une vie d'interdiction. Si c'est cette interdiction-là, oui, je veux que la vie chrétienne soit ce type d'interdiction. Si la vie chrétienne m'interdit de haïr mon frère, je veux que la vie chrétienne soit ce type d'interdiction. Il est interdit en tant que chrétien de laisser la haine prendre place et racine en nous. Il est interdit. L'amour et la haine sont mis en opposition. Lumière, ténèbres. L'amour, c'est la lumière. La haine, ce sont les ténèbres. Est-ce que nous sommes dans la lumière ou est-ce que nous sommes dans les ténèbres? Il dit, ce n'est pas compliqué. Pour savoir si tu es dans la lumière, dans une relation, dans les relations humaines, si tu as de la haine vis-à-vis de quelqu'un, il dit, tu es dans les ténèbres. C'est fort, Seigneur. Mais oui, c'est fort. Pourquoi? Parce que Christ l'a démontré dans son ministère terrestre, il l'a démontré dans ses propos. Il dit, car c'est du cœur des hommes que viennent les mauvaises pensées. Une fois qu'une mauvaise pensée a jailli, qu'elle est cultivée, elle entraîne les meurtres. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un dit imbécile à son frère, il est comme celui qui l'a tué. Parce que s'il laisse cette pensée germer, il va la cultiver. Et le risque, c'est qu'il débouche une haine. Cette haine ne va pas forcément être un crime de sang, mais va être quand même une séparation avec cette personne. Une division avec cette personne. Il dit le pire, c'est qu'on retrouve. Le pire, c'est si on le retrouve dans l'église. Il dit le pire, c'est si on le retrouve dans l'église. Parce que quand il dit son frère ici, il ne parle pas du frère dans l'humanité, il parle d'abord du chrétien, de la chrétienne. Si un chrétien haït un autre chrétien, si un chrétien a de la haine vis-à-vis d'un autre chrétien, si une chrétienne a de la haine vis-à-vis d'une autre chrétienne, il dit on est bien dans les ténèbres. On est bien mal embarqué si ça se trouve. On n'est pas dans la bonne direction. On n'a pas bien lu le panneau, car c'était un panneau d'interdiction. Sens interdit. On ne doit pas aller par là. Vous savez, et ça m'est arrivé, j'essaie de ne plus le faire. Vous arrivez dans des grandes villes comme Paris, et il y a plein de panneaux de sens interdit. Et parfois, le parking, il est juste à côté du panneau du sens interdit, dans le sens interdit. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on était à Paris parce qu'on avait un rendez-vous chez le dentiste, et j'ai vu un monsieur faire ça. Donc il a avancé, il a mis son warning, et il a fait marche arrière. Parce que le sens interdit, c'est d'aller tout droit, n'est-ce pas? Lui, il est tellement intelligent qu'il a compris qu'il peut rouler en marche arrière sur un sens interdit. Mais même s'il y avait un policier, ça serait une infraction. Et parfois, on fait ça aussi avec Dieu. On sait bien que c'est un sens interdit, mais on dit, on est plus malin que toi, Seigneur. Regarde, je ne vais pas marcher en avant, je vais marcher en arrière. Et je vais prendre quand même ce chemin, mais en arrière. Parce que là où je vais, c'est tout près. Et toi, tu me dis de faire ce grand détour pour revenir par là. C'est tout près. Et en marche arrière, j'y arrive plus vite. Je suis plus sage que toi, Seigneur. Bonjour les dégâts. C'est pas sage du tout de faire ça. Nous n'avons pas le droit de laisser ne serait-ce qu'une once de haine contre qui que ce soit. Parce que haïr, c'est avoir de l'hostilité pour l'autre. C'est de l'animosité, c'est de l'agressivité, c'est de la rancune, c'est de la malveillance, c'est la détestation, c'est la malédiction, c'est le mépris, c'est le rejet, c'est une forte désapprobation, c'est un rejet, c'est une détestation. Mais elle ne vient pas comme ça, elle vient tout doucement si on la laisse cultiver. Elle est tellement subtile que si on lui ouvre la porte, elle s'installe, elle foisonne, elle gangrène, et le jour où on se rend compte, elle est déjà là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous invite, il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Et ici, le thème que la parole de Dieu utilise souvent, c'est un thème qu'on dit, c'est un thème qui est toujours actif. C'est-à-dire, continuez à vous pardonner. Continuez à vous pardonner. Car le pardon, le pardon n'est jamais statique. Il est toujours dynamique. Même si c'est la même personne. Mais là encore, nous n'avons pas souvent les mêmes. Nos ressources propres ne nous permettront pas de le faire. C'est là que c'est intéressant que Dieu vient à notre secours par son esprit. C'est lui qui vient à notre secours. Quand nous sommes limités, quand nous ne pouvons plus. C'est ça la bonté de la foi chrétienne. C'est que l'Esprit de Dieu est disposé et disponible pour nous accompagner à obéir à la gloire de Dieu. Alors, je t'invite à regarder au fond de toi-même, à regarder dans tes relations en ce début d'année, que ce soit au sein de l'Église ou à l'extérieur. Et si ton bilan il est positif, qu'il n'y a aucune haine pour qui que ce soit, gloire à Jésus-Christ. Et reste sur cette direction-là. Garde cette direction-là. Car tu es sur la bonne direction. Car tu manifestes les caractéristiques d'un chrétien, d'une chrétienne. Tu es sur la bonne voie. Ne change pas d'itinéraire. Il n'y a pas de raison. Par contre, si ton bilan te donne de voir que, quand même, attention, c'est vrai. Ouais, ça fait des années, mais cette relation, elle est restée quand même. Avec les autres, j'ai une facilité, mais je n'ai toujours pas eu cette facilité avec cette personne-là. Et surtout si c'est une personne dans mon environnement proche, dans ma famille proche, Dieu m'invite à montrer que je suis dans la lumière et pas dans les ténèbres. Si c'est le cas, demande la force à Dieu de te remettre sur le bon chemin. Amen. Et puis, sur ce bon chemin, il y a des panneaux comme ceux-ci qui sont des panneaux de confirmation, n'est-ce pas? On dit panneau de confirmation courante, c'est-à-dire que tu as un itinéraire, tu sais où tu vas. Là, c'est Clermont-Ferrand. Donc, quand tu vois ces panneaux-là, tu dis, ok, c'est bon. Je suis sur la bonne direction. Je continue. C'est des panneaux de confirmation de direction. N'est-ce pas? Et l'apôtre Jean dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et le répète avec d'autres expressions. Je vous écris, et dans d'autres versions, il dit, je vous le confirme, petits enfants. Parce que vous avez connu le Père. Je vous le confirme, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc il dit, je confirme que vous êtes sur la bonne direction. Vous êtes sur la bonne direction. Gardez le cap. Restez sur cette orientation-là. Quand cette année 2019, que toutes les bonnes orientations que tu as de Dieu, que tu puisses les garder, que tu puisses maintenir les directions dans le sens de la bonne direction de Dieu. Ce code de la parole rassure et confirme le chrétien qu'il est sur la bonne direction et que cette bonne direction va lui apporter, voilà, du bien. L'expression ici, petits enfants, on peut le comparer aux étapes de la vie chrétienne. Un petit enfant en Christ, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, donc c'est un nouveau converti. Quelqu'un qui vient à peine dans les mois, dans les années qui viennent de connaître Jésus, donc qui a ses débuts. Et il dit une chose qui est importante aux petits enfants, il dit vos péchés vous sont pardonnés. Donc vous êtes passé de la mort à la vie. Christ vous a arraché des ténèbres du péché et maintenant il vous a mis sur le chemin du non-péché. Ne péchez plus. Parce que maintenant vous avez la force en Dieu de ne plus pécher. Avant vous ne l'aviez pas. Parce que vous étiez sans Christ, sans Dieu. Maintenant, vous l'avez. Il dit, l'expression père ici, c'est pour les chrétiens matures. Les chrétiens qui ont passé du temps dans la parole, dans la prière, qui ont grandi dans la foi chrétienne. Il dit, vous savez ce que vous avez reçu dès le commencement. Donc, un rappel. Il dit, n'oubliez pas d'où vous venez. Rappelez-vous constamment qui est votre Dieu, comment il vous a conduit, comment il vous a donné de persévérer, d'être fidèle, de garder la foi. N'oubliez pas, parce que vous connaissez les choses. Vous connaissez les choses. Vous connaissez les choses. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il reproche à cette église, il dit, tu as perdu ton premier amour. Il dit, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Je prie que ce ne soit pas le cas. Et qu'au contraire, notre amour pour Dieu soit toujours vivant, malgré les années. Que nous ne soyons pas dans le syndrome de l'ancien combattant. Vous savez, l'ancien combattant, il a toujours... Voilà. Autrefois. D'accord. Autrefois, d'accord. Mais Et aujourd'hui, quelles sont les batailles que tu continues de remporter? Quelles sont les victoires que tu continues de remporter en Christ Jésus? Tu ne peux pas toujours évoquer les victoires passées, parce que les luttes, il y en a encore là. Et puis ensuite, il dit les jeunes gens. Les jeunes gens, c'est tous ceux qui sont chrétiens, qui sont dans le feu de l'action, qui sont engagés pour Dieu, qui sont entre l'enfance, donc l'étape de conversion est bien passée depuis, mais ils ne sont pas encore à cette maturité parfaite. Mais dites-vous, votre force, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est là seulement que sera votre force, parce que Christ a vaincu le malin, et si vous voulez continuer dans cette victoire sur le malin, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Et le thème demeurer ici, c'est non seulement la connaître, mais la pratiquer. Vive cette parole. Amen. Alors, où en es-tu? À quelle étape de la foi chrétienne tu es? Es-tu tout au début de la foi chrétienne? Alors, tu es un nouveau converti. Gloire à Dieu. Parce qu'il t'a fait passer de la vie à la mort. Es-tu sûr qu'il t'a fait passer de la vie à la mort? As-tu reçu Jésus dans ton cœur? As-tu accepté que Christ est mort pour toi? Parce que sans lui, la Bible dit que ce qui t'attendait, c'était la perdition éternelle. Mais que Dieu, dans sa grâce, te donne le Christ pour que, en Jésus, Dieu t'oriente vers une vie non seulement terrestre, apaisé, mais qu'au jour du départ, tu aies l'assurance d'être au paradis de Dieu. Quelle joie! Es-tu là? Si tu es là, merci Seigneur, gloire à Dieu, demeure dans ce chemin. Ou est-ce que tu es jeune dans la foi, dans le sens où tu continues à être motivé pour la parole de Dieu, motivé pour cette vie chrétienne avec ses valeurs, avec ses choix, avec ses décisions? Alors gloire à Dieu aussi, garde cette orientation, reste sur ce chemin. Et si tu es un chrétien mature, que l'épreuve n'a pas eu raison de toi, mais que Christ t'a donné de supporter, de traverser les épreuves en gardant la foi, continue. Garde ta victoire et continue d'avoir aussi des victoires à venir. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et en résumé, on peut juste dire, pour la dernière diapo, pour résumer tout ce que nous avons vu, le vrai chrétien qui connaît Dieu et marche dans la lumière, à la fois obéit à Dieu et aime son frère. La pureté de sa foi se voit dans sa juste relation et avec Dieu et avec les hommes. Marcher dans la lumière, c'est se laisser guider, éclairer par les conseils de la parole de Dieu. Notre amour et notre haine révèlent non seulement si nous sommes déjà réellement dans la lumière ou dans les ténèbres, mais ils contribuent en fait à renforcer soit la lumière, ou à nous enténébrer un peu plus. Et nous sommes des enfants de lumière. Ces trois périodes de la vie dont j'ai parlé, elles sont là. Petite enfance, conversion, jeunes gens, des chrétiens plus avancés, forts et victorieux, les pères, cette maturité, cette stabilité qu'apporte la richesse de l'expérience chrétienne. Si un homme est accaparé par les perspectives et les quêtes du monde, qui refuse le Christ, il est évident qu'il n'a pas l'amour du Père. Et j'ai précisé de quoi, quand on dit le monde, c'est pas le monde créé par Dieu, c'est le système du monde sans Dieu, qui continue d'avoir des valeurs que Dieu n'aime pas. Par contre, le monde créé est un monde que Dieu aime. Aimer la vie, c'est aimer Dieu. Mais Jésus veut que nous soyons prospères à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Prions. Béni sois-tu Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci pour cette parole que j'ai expliquée à mes frères et mes sœurs. Ma prière, c'est que chacun de nous, alors que nous avançons dans cette année nouvelle, Seigneur, puisse garder la bonne direction, notre Dieu. Et si quelques-uns n'avaient pas cette bonne direction, donne-leur de se ressaisir par l'action de ton esprit, par ta grâce, et tu les ramènes sur la bonne direction, Seigneur. Si quelques-uns étaient sur la bonne direction, mais qui étaient en train de s'en détourner ou de se perdre, donne-leur de se ressaisir aussi. Que l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, aide-nous, n'est-ce pas? Notre Dieu dit que toi, troisième personne de la Trinité, tu es là constamment pour nous orienter, pour nous parler, pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Nous voulons t'écouter, nous voulons te suivre, nous voulons t'entendre. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.